Merci d'être venu. Je vous rappelle tout de suite que nous devons quitter les lieux à 17h45 pour des raisons internes à l'établissement. Et je me permets aussi de vous rappeler que la prochaine séance du 9 décembre sera consacrée à l'évocation de notre grande crétée Jeannine Baude et à la présentation du prix Aliénor 2023 à Patricia Cassette-Meunier pour son livre Havre. Notre assemblée générale se tiendra ici même le 22 novembre à 16h15. Et donc, voilà, le trésorier me rappelle gentiment qu'il faudra payer sa cotisation. Et nous nous retrouverons un tout petit peu avant au restaurant La Nouvelle Garde, 6 cours du commerce Saint-André. D'accord. Je vous présente les excuses de Béatrice Marchal. Et ben, s'il y a des annonces, vous êtes...
Oui,
oui Jean-François.
Alors, dernière manifestation de l'année de l'association des ricochets poétiques. Donc, ce sera le dernier jeudi du mois de novembre. Ça doit être le 30. Donc, c'est à 17h au Café du Pont Neuf, au premier étage. Voilà. Merci.
Merci bien.
Et après, comme c'est pas loin, le 30, vous pouvez venir à l'espace commune où j'ai eu le vernissage d'un salon des artistes à la Bastille auquel je participe.
Parfait, donc une belle continuité artistique et poétique.
Oui, moi j'ai une autre annonce, le festival va prendre parole de poésie tous les deux ans à Malakoff. Et entre autres, il y aura le 9 décembre Béatrice Marchal qui fait la convention sur ce festival. Michel Passler sera une Michel Ferrand. Sinon, vous aurez l'occasion de connaître la poésie de Tsedja Soshka, une poète romanie, qui est aussi peintre, qui avait exposé à la Maison Rouge, et la poésie ukrainienne et franco-russe le 10 décembre. Et les poétesses bitniques aussi le 8 décembre. Voilà.
Merci bien.
Et un hommage à Jean-René Le Tensier, oui, qui est rendu par Éric Sévry au Café de la Mélise de Jean-Pis, le vendredi
17 novembre.
Café de l'Amérique, place Saint-Sulpice.
C'est ça.
À 20h.
19h30. Très bien. Bien, donc aujourd'hui, nous nous intéressons donc à l'anthologie de poésie britannique au tournant du XXIe siècle, avec nos deux invités, Martine de Clercq et Jacques Darras. Alors, on ne présente plus Jacques Darras, bien sûr, un des seuls poètes épiques de notre temps. Qu'il me permette simplement de citer une brève citation de sa part qui tombe bien ce jour-là, le 11 novembre, tirée de son livre « Je sors enfin du bois de la grurie » et cette citation est tout simplement « Louis XIV, 18 ».
C'est presque du Berger.
Et à son âme, oui.
Martine de Clercq est moins connue, c'est pourtant elle qui est à l'origine de ce projet, de cette admirable anthologie. Elle est traductrice de l'anglais, notamment de Malcolm Lowry. Elle a été maître de conférence à l'université de Picardie Jules Verne avec une thèse sur William Butler Yeats, c'est comme ça qu'on prononce. Mais elle traduit aussi de l'espagnol et du chinois.
Mais pas toute seule, hein, avec une sinologue.
Tout de même. Voilà, je les laisse présenter cette admirable anthologie avec peut-être ce titre, L'île rebelle.
J'en parlerai.
Tu en parleras ?
Allez, prends le micro, peut-être. Alors,
est-ce que c'est...
Ah, non.
Alors, voilà. Voilà, non, c'est... Ah oui, parfait. J'ai l'habitude, hein. Voilà. Bon, je pense que c'est mieux avec le micro.
Oui, on
entendra mieux. Hein, d'accord. Voilà. Bon, eh bien, j'ai le plaisir donc de vous présenter cette... Vous me faites signe hein, s'il y a des problèmes de micro, parce que je ne me rends pas bien compte du résultat de... Voilà. Donc, le plaisir de vous présenter cette anthologie de poésie britannique en deux mots... Ayant refermé l'anthologie de poésie anglaise de Gallimard, l'énorme anthologie de la Pléiade, Je me suis aperçue qu'elle se terminait en 2000, hein, c'est un énorme panorama de la poésie britannique des origines à nos jours, et je me suis demandé, eh bien, après 2000, que s'est-il passé, et j'avoue que moi-même, j'en étais un peu ignorante, donc je suis allée, eh bien, faire des recherches, et ben, voilà, le travail... a donné cette anthologie, à savoir le début du 21e siècle. Nous avions, c'est pas trop désagréable le son là ? Un petit peu ? Bah, alors là, si je m'approche, c'est encore pire. Donc est-ce que là, c'est mieux ?
Et est-ce que si je parle sans micro, vous entendez ? Non ?
Le problème, c'est qu'il y a les bruits.
Oui, alors voilà. Donc, je persiste avec le micro. Ah, voilà, on va finir par trouver la bonne distance. Là, je pense que ça va, ça, j'entends moins de son parasite. Donc, à l'origine, je m'étais intéressée non seulement à la littérature britannique, c'est-à-dire anglaise, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, mais aussi à la littérature irlandaise. Et Jacques et moi, nous avons fait paraître en 2012, je crois, une anthologie de poètes irlandais, donc du début du 21e siècle. Ce qui explique que dans cette anthologie, l'Irlande n'est pas du tout incluse. D'ailleurs, ça aurait été très très compliqué pour des raisons de place, bien entendu, hein, et déjà assez importante. Donc je tenais à donner cette explication qui me semble importante. Et voilà, donc beaucoup de poètes très peu connus en réalité du public français, hein, même les poètes majeurs sont extrêmement peu connus, donc c'était aussi dans le but d'en faire la découverte au public français. Alors la publication a pris pas mal de temps pour diverses raisons, pas seulement le Covid, le Brexit, la difficulté aussi à travailler avec les éditeurs britanniques, les droits d'auteur, etc. Enfin, ça a été un peu compliqué. Donc la publication a pris du temps, mais voilà, ça s'est fait enfin en 2000, l'année dernière. Et donc nous sommes très très contents de cette publication. Je pense que tu voulais parler du titre, là, c'est ça ?
Oui, je peux parler du titre. L'île rebelle. Alors... Évidemment, ce titre s'est imposé parce que, dans le fond, tu as commencé, nous avons commencé à l'époque du Brexit, où l'histoire du Brexit se mettait en route. Je vous rappelle très rapidement que le Brexit a été voté au Parlement britannique en 2016, enfin, Parlement britannique, le référendum a eu lieu en 2016, pardon. Et finalement, ça s'est joué, je regardais l'autre jour, j'avais oublié, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est-à-dire que le score a été un 51% et 49%. Donc, ça s'est joué à rien. Dans le fond, je pense que le pourcentage qui a permis que ça passe, ce pourcentage des « oui » quitter l'Europe, est dû à la personnalité de Boris Johnson, personnalité flamboyante, à la limite de l'honnêteté, et qui du reste a payé le prix, hein, véritablement. Et d'un autre côté, c'est l'origine de ce référendum est venue d'un autre conservateur, David Cameron, qui a commis une bourde absolument monumentale. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le Brexit est entré en vigueur en janvier 2020, 4 ans après le référendum. Parce qu'aujourd'hui, si l'on consultait les Britanniques, il est vraisemblable qu'ils diraient oui, nous restons dans l'Europe. Ça n'est pas aussi majoritaire qu'on le pense. Ils sont, disons, les oui à l'Europe sont à 55-56% aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme, qui peut changer et fluctuer. Mais de la part des europhiles, il y a eu une très grande frustration, et parmi les poètes, que nous connaissons, ils étaient tous europhiles d'une certaine façon. Donc l'île Robert, qu'on pourrait appliquer beaucoup plus logiquement à l'Irlande, bien entendu, on pense tout de suite à l'Irlande et à la rébellion irlandaise, s'est imposée à nous à l'époque du Brexit. Et c'est pas tout à fait injustifié. Moi, je me souviens, en 73-74, lorsque Ted Heath, dont plus personne ne se souvient, Edward Heath, le premier ministre conservateur, a entraîné derrière lui l'Angleterre, ça s'est joué aussi à pas grand-chose. Et les Anglais que je connaissais autour de moi, qu'on fréquentait dans les villes et dans les villages, étaient un peu moroses. Enfin, ça ne les enchantait pas. Dans le fond, les Anglais n'aiment pas profondément Bruxelles, comme ils l'appellent. Bruxelles, c'est-à-dire le red tape, c'est-à-dire l'administration. Le fait que, d'ailleurs, Johnson a joué à fond là-dessus, en disant, calculer les centimètres des navets et des carottes, ça ne signifie rien du tout. Mais, pour ce qui nous concerne, cette insularité de l'Angleterre, elle est bien plus ancienne. Et alors, elle est bien plus ancienne, comme vous le savez. Les Anglais sont très fiers de n'avoir jamais été envahis depuis Guillaume le Conquérant. Et c'est vrai. Leur attitude pendant la Seconde Guerre mondiale a été en tout point admirable. Et alors, ce qu'on sait moins, puisqu'on ne connaît pas beaucoup la poésie britannique, c'est que cette insularité s'est créée progressivement. J'en donne plusieurs dates qui permettent de comprendre, d'une certaine façon. D'abord, il y a, en 1300, je commencerai en 1300. En 1300, il y a un poète qui s'appelle Geoffrey Chaucer, et qui écrit le fameux Conte de Canterbury. Et ces contes de Canterbury sont écrits en décasyllabes. Et le décasyllabe, en quelque sorte, les Français le laissent filer et il passe en Angleterre. Et donc Chaucer s'empare du décasyllabe. Et ça va rester le vers classique anglais. Nous, l'alexandrin, on dit c'est l'alexandrin. L'alexandrin, c'est récent. Et ça n'a pas duré très longtemps. Le décasyllabe remonte à 1300. Et aujourd'hui, en 2023, il existe encore beaucoup de poètes anglais qui écrivent en décasyllabe. Ajoutez à cela, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard, la découverte, c'est l'invention, plus exactement, du vers décasyllabe, donc 10 syllabes, qui ne rime pas. On appelle ça le vers blanc, blank verse en anglais. Et c'est un poète, je cite son nom parce qu'il est très peu connu chez nous, qui s'appelle Henry Howard, mais plus connu sous le nom du comte de Surrey, qui traduit Virgile en vers blanc. Et la conjonction de ce décasyllabe et du vers blanc, eh bien celui qui va lui donner toute sa splendeur, c'est William Shakespeare. William Shakespeare, on ne le dit pas toujours, et je comprends très bien les traducteurs français, parce que traduire le vers blanc décasyllabe en français, ça n'est pas simple. Le vers de 10 syllabes, nous n'en avons plus la dextérité, en quelque sorte. Shakespeare, toutes les tragédies de Shakespeare, Jules César, Roméo et Juliette, Hamlet, je ne vais pas vous donner les quatre premiers vers de To be or not to be, mais c'est du décasyllabe blanc. Qu'est-ce que ça permet, le décasyllabe blanc? Moi, j'en suis un adepte. Je pense que je suis peut-être le seul en France, dans la poésie contemporaine, à avoir essayé d'écrire en alexandrin blanc, parce que le décasyllabe blanc, c'est pratiquement difficile pour quelqu'un. Le français est plus prolixe que l'anglais. L'anglais est beaucoup plus contracté, condensé et court. Cela tient au fait qu'il y ait tant de monosyllabes dans la langue anglaise. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça tourne. Vous comprenez ce qu'on appelle l'enjambement? Eh bien, chez Shakespeare, déjà, l'enjambement, ce n'est pas une découverte récente comme dans la poésie française. L'enjambement, ça tourne déjà à l'époque de Shakespeare. Ce qui explique que ce vers
est utile pour le théâtre. Il l'utilise pour le théâtre. Car dans le théâtre, la rime est, d'une certaine façon, même si Racine est un poète qui rime et que c'est très beau l'usage de l'alexandrin qu'il fait, mais ça ne court pas, ça n'avance pas. On a l'impression que c'est statique, hein, Racine. Corneille aussi, un peu moins, mais c'est statique. Là, dès Shakespeare, ce qui fait sa modernité, c'est que ça avance. La narration avance très très vite, effectivement. Elle n'est pas bloquée par la rime. Et le poète qui va, d'une certaine façon, théoriser cela, il vient après Shakespeare, et c'est le premier poète anglais que les Français vont traduire avant Shakespeare, c'est John Milton. John Milton, Paradise Lost, le paradis perdu. Et le paradis perdu de John Milton, qui va être traduit d'ailleurs, c'est toujours dans la collection Poésie Gallimard aujourd'hui. Quel exploit quand même quand vous y pensez. Hein, il fait ça en 1660-1670, John Milton. C'est un révolutionnaire, c'est un poète républicain. Il est dans les bagages d'Olivier Cromwell, qui installe la révolution, qui supprime la monarchie, qui coupe la tête au roi Charles Ier. Et donc, ça va durer pendant 20 ans, la République en quelque sorte, et John Milton est un des personnages importants de cette République cromwellienne. Et John Milton, je trouve ça absolument délicieux, écrit comme Shakespeare tout son poème, 12 chants, en décasyllabes blancs, et en décasyllabes non rimant. Et Chateaubriand traduit ça en prose. Magnifique traduction, au demeurant. Mais il traduit ça en prose, voyez-vous. Et ça n'est pas traduit. Il y en a d'autres qui traduiront ça, moins connus. Un certain abbé de Lille qui traduira ça en alexandrin. Et il écrit dans une petite note de préface que Chateaubriand ne traduit pas. Je trouve ça absolument délicieux. C'est à savoir que Chateaubriand, donc, est embêté parce que cette courte note de John Milton, et elle ne figure dans aucune des éditions françaises actuelles, John Milton dit, je vous lis ce 5-6 phrases, « Le vers héroïque anglais, c'est comme ça qu'il appelle le vers, sans rime, comme celui d'Homère en grec, de Virgile en latin, la rime n'étant ni un attribut nécessaire, ni un véritable ornement du poème ou de la bonne poésie, dans les œuvres longues en particulier. Mais l'invention, et là c'est la poésie française qui est visée là, mais l'invention d'un âge barbare, cet abandon de la rime est l'exemple, le premier en anglais, de l'ancienne liberté retrouvée par le poème héroïque délivré du fastidieux moderne esclavage qu'est la rime. En France, il faudra attendre Paul Verlaine pour avoir quelque chose comme ça, à savoir cette rime, ce bijou sourd, enfin je cite ça, qui lira les corps de la rime, hein, ainsi de suite. Paul Verlaine, effectivement, il faut attendre longtemps avant que la poésie française dérime. Suivront, j'avance, les romantiques anglais. C'est en Angleterre que le romantisme poétique démarre, avec un couple de poètes, Coleridge et Wordsworth. Et alors, ces poètes, en particulier Wordsworth, écrit la première autobiographie en décasyllabes blancs qui paraît en 1850. Et ce romantisme anglais, c'est le repli sur soi, c'est un Brexit avant la lettre. Hein, ces deux poètes, Samuel Taylor Coleridge, que j'ai traduit également chez Gallimard, dans cette collection, eh bien, ils croient à la Révolution française. D'abord, ils commencent par la Révolution française, et puis, c'est la terreur, et ils sont effectivement terrifiés. Et Wordsworth, qui était allé jusqu'à vivre en France, à Orléans, épouser une Française, jeune Française, Annette Wallon, avoir un enfant avec elle. Et cet enfant, eh bien, il quitte tout le monde, la femme et l'enfant, et il rentre précipitamment en Angleterre. Cet enfant qu'il ne verra plus qu'une fois d'ailleurs, cette petite fille dont le prénom m'échappe, et qu'il verra en 1804 lors de la paix d'Amiens sur la plage de Calais. Imaginez cette rencontre avec sa fille sur la plage de Calais. Donc, repli, Brexit avant la lettre. Le romantisme anglais est un Brexit. On se retire sur soi, les grandes terres et les lacs du Nord, la géographie du Nord, et le commerce va être non plus avec la France, mais avec l'Allemagne. Et donc, voilà. Et puis, la rupture suivante, et j'arrive à ma fin, la rupture suivante, c'est l'Amérique. La langue anglaise est figée dans le décasyllabe blanc, et la rupture vient d'Amérique. Et celui qui crée la rupture, c'est Walt Whitman, 1855, qui lui se fiche royalement que s'il y ait de la rime ou pas de la rime, du vers blanc ou pas du vers blanc, et qui invente littéralement le verset. Et le verset que les Français timidement vont adopter, Jules Laforgue, premier traducteur de Walt Whitman, et puis ensuite Sandras, Apollinaire, en disant pick-pong de Whitman à cause de son homosexualité cachée, latente, ainsi de suite, donc tapant à boulet rouge sur lui et évitant de reconnaître que le vers libre, le premier vers libre, c'est l'américain Walt Whitman en 1855. Dernier de la liste, après ce rapide tour d'horizon schématique, dernier de la liste, eh bien c'est T.S. Eliot, un autre américain, mais qui vient vivre en Angleterre, qui passe la guerre en Angleterre, avec son ami Ezra Pound, son mentor, son professeur Ezra Pound, et qui écrit en 1922 The Wasteland. On parlait du 11 novembre, à l'instant, nous sommes le 11 novembre. Les troupes anglaises ont subi un vrai traumatisme sur le champ de bataille de Picardie, la Somme, où je suis né moi-même. Et ce traumatisme a été épouvantable. Ils ont perdu quelque chose comme 800 000 ou 900 000 hommes, ce qui est moins que les Français, 1,4 million, pour rappel, ou les Allemands, 1,6 million, approximatif, à quelques unités près, en quelque sorte. Et ces Anglais, donc, et ce poème de Westland, La Terre Vaine, qui a été traduit par Pierre Léris au Seuil, c'est un poème qui dit la catastrophe de la civilisation européenne. Paul Valéry avait dit, nous autres Européens, nous savons désormais que nous sommes mortels. Westland, T.S. Eliot, dit, la civilisation européenne est cassée, définitivement cassée. Et moi, je suis frappé par une chose, c'est que en face, 2 ans plus tard, paraît le manifeste du surréalisme, 1924, Breton. Et Breton, relisait le manifeste du surréalisme, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, relu il n'y a pas longtemps, et je n'en revenais pas. Breton, qui a été infirmier au Val-de-Grâce, avec son compère Aragon, et qui a vu les cas psychiatriques de choc, de traumatisme de tous les soldats qui revenaient de la guerre, Breton en 1924, et moi j'en veux au surréalisme en général. Et disant cela, je me fais lâcher par les 9 dixièmes de la poésie française contemporaine. J'en veux au surréalisme, pourquoi? Parce que Breton dit finalement la poésie, c'est l'émerveillement. Et donc on sort de la guerre, les Anglais s'adapte au traumatisme de la guerre, et depuis ce temps-là, la poésie anglaise a toujours ce sens de la relativité des choses et de la tragédie de l'humanité. Ça n'est jamais absent de la poésie anglaise. Les Français, euphoriques, euphorisés par la poésie, jusqu'aujourd'hui, quasiment, ne déchantent pas. Donc, voyez-vous, tout ça pour vous dire que le Brexit, d'une certaine façon, le Brexit poétique, ça ne part bien. Et donc voilà pourquoi nous avons donné comme titre « L'île rebelle » à cette anthologie de poésie. prie.
Alors, tu veux continuer par une lecture
Tu vas lire.
Alors, je lis d'abord. Alors, comment se faire une place pour les femmes dans une tradition aussi riche, mais quand même un peu écrasante? Donc, à peu près la moitié des textes de l'anthologie sont écrits par des femmes. Ce n'est pas de ma part un choix arbitraire ou conscient, mais tout ce qui est paru de très intéressant dans la poésie britannique à partir du début du XXe siècle, ce qui a été un peu nouveau, a été écrit en grande partie par des femmes. Je n'ai pas, bien entendu, exclu les hommes de l'anthologie. Hein. Je ne suis pas de ce féminisme-là. Et il y a dans l'anthologie les œuvres tardives de quelques vraiment immenses poètes britanniques comme Geoffrey Hill ou bien Derek Walcott. Et donc c'est en quelque sorte leur testament poétique que l'on trouve là. C'est très intéressant. Mais on remarque, ce qui s'est accentué encore aujourd'hui, l'émergence des voix des femmes, des minorités, etc. Et tout cela n'a fait que s'accentuer au fil du siècle. Alors je vais simplement vous présenter quelques voix de femmes. J'en vais en lire quelques-uns aussi en anglais, mais pas tous parce que ce serait beaucoup trop long. Simplement un ou deux pour vous faire entendre la langue, et puis je passerai à la traduction. Et comme le disait Jacques tout à l'heure, la difficulté étant que le rythme de l'anglais, évidemment, est très rapide, et qu'en français, eh bien, on fait de son mieux pour garder cette rapidité. Le premier poète que j'ai choisi, ça s'appelle, pas du tout connu en France, s'appelle Huey Fanthorpe.
Moi, je ne la connaissais pas non plus. Hein.
Non, mais bon. Ok. C'est elle qui a ouvert la voie, en quelque sorte, à toutes celles qui suivent. Donc, je commence par elle. Un poème très simple pour commencer. Mother scrubbing the floor. She had a dancer's feet, elegant, witty. We had our fathers, maverick spreaders of dirt. Dirt from London, dirt from Kent. Mud, dust, grass, droppings, wetness, things. Dirt barefaced, dirt stinking, dirt invisible. Whatever it was, she was ready. The rubber kneeler, clanking galvanized bucket, the life boy, the hard water. Let me, we'd said, meaning, hate to see you do this. Too old, too resentful. Besides, you'll blame us. That you had to do it. She never yielded. We couldn't do it right, lacking her hatred of filth, her fine strong hands. Don't want you to do this, she said. Don't want you to have to. Just remember this. Love isn't sex, but the dreary things you do for the people you love. Home's the girl's prison, the woman's workhouse, she said. Not me, she said, sure. I do remember. I stand where she kneels. Ma mère frotte le sol. Elle avait des pieds de danseuse élégants, spirituels. Nous, ceux de notre père, rebelles propagateurs de crasse. Crasse de Londres, crasse du Kent, boue, poussière, herbe, déjection, humidité, j'en passe. Crasse effrontée, crasse puante, crasse invisible. Quoi que ce fût, elle était prête. Tapis de caoutchouc, seau galvanisé cliquetant, sa bouée de sauvetage, de l'eau bien chaude. Laisse-moi faire, disions-nous en pensant. Te voir me fait mal, tu es trop vieille et trop aigrie, et puis tu finiras par me le reprocher. Jamais elle ne cédait. Nous n'en aurions pas été capables, n'ayons pas sa haine de la saleté, ses belles mains fortes. Pas question que tu le fasses, disait-elle, que tu te sentes obligée. Souviens-toi bien de ceci, l'amour, ce n'est pas le sexe, mais toutes les corvées qu'on fait pour ce qu'on aime. Pour une fille, la maison est une prison. Pour une femme, le bagne, disait-elle. Ce n'est pas de moi, ajoutait-elle, c'est de chaud. Je m'en souviens bien. Je suis debout, là où elle était à genoux.
Là, c'est le dernier vers. C'est...
Ben oui, donc là, c'est en c'est quelque tout. Sorte le changement de génération. Ah, ouais. Et donc, les femmes ne sont plus à genoux. Elles se révoltent et elles prennent la parole. Je vais peut-être continuer sur les femmes et puis tu feras.
Oui.
Ouais, parce que ça va être moins cohérent, je pense. Après, je pourrais m'arrêter. Voilà. Alors, la suivante est un peu plus jeune. Il s'agit de Wendy Cope, qui est très très connue en Angleterre. Alors, elle est extrêmement impertinente et elle se moque, mais gentiment, hein, des hommes. Hein, elle n'est pas non plus anti-homme, mais elle s'en moque gentiment. Dans ce poème qui s'appelle Bloody Men. Page 226. Bloody men are like bloody buses. You wait for about a year, and as soon as one approaches your stop, two or three others appear. You look at them flashing their indicators, offering you a ride. You're trying to read the destination. You haven't much time to decide. If you make a mistake, there's no turning back. Jump off. And you stand there and gaze while the cars and the taxis and the lorries go by, and the minutes, the hours, the days. Foutus hommes.
Vive lentement.
Vive lentement. Ces foutus hommes sont comme les foutus bus. On les attend parfois près d'une année, et dès que l'un s'approche de votre arrêt, on envoie deux ou trois autres se pointer. On les regarde faire clignoter leurs signaux, vous proposez de monter, on essaie bien de lire leur destination, mais on n'a pas beaucoup de temps pour se décider. Si on se trompe, pas question de faire demi-tour. Si on saute en route, on risque de rester planté, à regarder défiler les voitures, les taxis, les poids lourds, avec les minutes, les heures, les jours.
Ça va,
c'était pas oui, c'est bien plus long, t'as raison, pour que ce soit assez long.
Alors, le prochain, ah oui, c'est quand c'est une... Alors, la prochaine, Selima Hill. Comme le disait Jacques tout à l'heure, de manière très intéressante, la poésie anglaise est très peu influencée par le surréalisme. Quelques exceptions, bien sûr, heureusement. Et Selima Hill en fait partie. Donc elle fait une poésie un peu déjantée avec une influence surréaliste. Je vais lire la première strophe en anglais parce que c'est assez simple. Cow. I want to be a cow and not my mother's daughter. I want to be a cow and not in love with you. I want to feel free, to feel calm. I want to be a cow who never knows the kind of love you fall in love with. A queenly cow with hips as big and sound as a department store. A cow the farmer milks in bended knee, who when she dies will feel dawn bending over her like lawn to wet her lips. Vache. Alors on m'a dit vache, ça ne sonne pas aussi bien que cow. Alors j'en conviens, et là c'est la frustration horrible du traducteur, on n'y peut rien. Donc vous avez entendu cow, vache. Après, vache c'est quand même assez sensuel finalement, plus que cow. Hein? Mais bon, je veux être une vache, pas la fille de ma mère. Je veux être une vache, pas amoureuse de toi. Je veux me sentir libre d'être calme. Je veux être une vache qui jamais ne va connaître le genre d'amour dont on tombe amoureux. Une vache royale, avec des hanches aussi amples et saines qu'un grand magasin. Une vache que le fermier trait à genoux, qui à sa mort sentira l'aurore se pencher sur elle comme une prairie et lui mouiller les lèvres. Ne viens pas me chercher, ne surgis pas dans la clarté du soleil pour venir à ma recherche, tout noir avec tes gants, tes bancs, tes manches, ton grand chapeau. N'appelle pas le conducteur du tracteur, n'appelle pas les voisins, ne fais pas ton gâteau aux fruits spécial pour fêter mon retour. Je ne vais pas rentrer à la maison. Je vais être une vache comptée par le vacher. Je vais être une vache et tu ne vas pas me reconnaître. Je passe à Carole Anne Duffy.
Ah oui, parce qu'elle est pas mal non plus, elle.
Alors, Carole Anne Duffy,
page 332,
est très connue. Elle a été poète officielle de Grande-Bretagne, puisqu'il y a en Angleterre ce qu'on appelle le poète laureate, et qui est le poète officiel de la cour également.
Depuis longtemps, hein, depuis Shakespeare, depuis Ben Jonson.
Bon, vous savez, les Anglais adorent la tradition, ouais. La continuité, oui. Hein, ça ne les empêche pas de la travailler, de la remettre en question, mais il n'y a pas de rupture. C'est évolution et non pas révolution dans leur cas. Et donc elle est très connue en Angleterre, étudiée dans les écoles, enfin la poésie, jusqu'à il y a quelques années, jouait encore un rôle social assez important en Angleterre, hein, contrairement à la France. Et elle nous propose là une réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Je ne vous lis pas en anglais parce que sinon on n'aura pas le temps. Eurydice.
C'est quelle page ?
333. Oh les filles, j'étais morte et au fond de l'enfer, un fantôme, l'ombre de moi-même, un néant. Cet endroit était le terminus du langage. Un sombre point final, un trou noir où les mots devaient prendre fin. Et c'est bien là qu'ils finissent les derniers mots, célèbres ou pas. Ça m'allait à merveille. Alors, imaginez-moi là, indisponible, hors du monde. Puis, figurez-vous mon visage dans ce lieu de repos éternel, le seul où une fille se croit délivrée du type d'homme qui la suit à la trace en écrivant des poèmes, qui rôde partout quand elle les lit, l'appelle sa muse, et qui une fois a boudé un jour entier parce qu'elle avait critiqué son penchant pour les noms abstraits. Imaginez ma figure quand j'ai entendu « Oh Dieu !» un toc-toc familier à la porte de la mort. Lui en personne. Big O. Plus grand que nature, muni de sa lyre et d'un poème à présenter, avec moi comme prix à gagner. Les choses étaient différentes en ce temps-là, pour les hommes, parmi ceux qui taquinaient la muse. Big O était un as, légendaire. Ses quatrièmes de couverture prétendaient que les animaux, d'âne à zèbre, s'attroupaient près de lui quand il chantait, que dans leur banc, les poissons sautaient au son de sa voix, et même qu'à ses pieds, les pierres muettes, moroses, versaient de petites larmes argentées. Foutaise, j'avais tout tapé moi-même à la machine, je savais ce qu'il en était. Et si c'était à refaire, je suis sûre que je préférerais parler de ma propre voix, plutôt que d'être sa très chère, sa bien-aimée, sa dame noire, sa déesse blanche, etc. En fait, les filles, mieux vaut pour moi être morte. Mais les dieux sont comme les éditeurs, des mâles en général. Et ce que vous n'ignorez sans doute pas de mon récit, c'est le contrat. Orphée déclama son Iraïus. Les fantômes à sang-froid fondirent en larmes. Sisyphe, pour la première fois depuis des années, se posa sur son rocher. Tantale eut droit à une paire de bières. Elle, la femme en question, n'en coupe pas ses oreilles. Bon gré mal gré, je devais le suivre et reprendre la vie d'Eurydice, épouse d'Orphée. Piégée dans ses images, métaphores, analogies, lutins et sixtins, quatrains et distiques, élégies, limeriques, villanelles, histoires, mythes. On lui avait dit de ne pas regarder en arrière et de se retourner, mais de se diriger naturellement, tranquillement vers le haut, moi à sa suite, afin de sortir des enfers, et de respirer l'air supérieur, qui pour moi était du passé. On l'avait prévenu qu'il suffirait d'un seul regard pour qu'il me perde à jamais. Alors nous avons marché, sans prononcer une parole. Oh les filles, oubliez ce que vous avez lu dans les livres. Je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il se retourne. Que devais-je donc faire, lui dis-je, afin qu'il se rende compte que c'était bien fini entre nous. Que devais-je faire pour qu'il se rende compte que c'était fini entre nous. J'étais morte, décédée. Je reposais en paix, finie, défunte, ma date de péremption dépassée. J'ai tendu la main une fois pour le toucher sur la nuque. S'il te plaît, laisse-moi rester. Mais déjà, la lumière avait tristement viré du violet au gris. C'était une fichue ascension de la mort à la vie. À chaque degré, je voulais qu'il se retourne. J'étais prête à chiper le poème de la poche de son manteau lorsque je fus enfin prise d'inspiration. Je m'arrêtais tout excitée. Il était à un mètre devant moi. Je lui dis avec des tremblements dans la voix, « Orphée, ton poème est un chef-d'œuvre. Je brûle de l'entendre à nouveau. » Il souriait avec modestie lorsqu'il se retourna. Lorsqu'il se retourna et me regarda. Que dire d'autre? J'ai remarqué qu'il ne s'était pas rasé. J'ai fait un signe de la main avant de disparaître. Voilà.
Bah, c'est l'humour hein, qui est...
Bah, oui, comme tu dis, c'est l'humour qui nous sauve, l'ironie, voilà. Et qui permet cette prise de parole tout en s'inscrivant, bien entendu.
C'est l'humour depuis Shakespeare. C'est une façon d'être et de considérer la vie.
Alors, si je terminerai bien par les femmes, par le court poème de Nécossès.
Oui.
Hein, et puis ensuite, on passera
à quelques hommes.
Voilà. J'ai traduit les hommes comme les femmes. Hein. Non, mais. Parce que là, je vous propose un parcours très féministe, mais honnêtement.
C'est comme ça.
Alors, un petit, parce que on me demande souvent en quoi la poésie écossaise a une spécificité. Si j'ai le temps, on lira peut-être un autre poème d'atmosphère très écossaise, mais simplement un poème court de Kathleen, c'est 506. Je ne vais pas le dire en anglais par faute de temps. Qui s'appelle Reine des prés, comme la fleur. Selon la tradition, certaines poétesses gaéliques étaient entourées face contre terre. Donc il y a toujours cet arrière-plan mythique, enfin, toujours, souvent, un arrière-plan mythique plus important, comme dans la poésie irlandaise, dans la poésie écossaise. Donc l'enterrement d'une poétesse gaélique face contre terre, reine des prés. Alors, ils l'ont enterrée, puis sont rentrés chez eux, un morne psaume les drapant d'un voile de brume, sans savoir que le liquide s'égouttant de ses lèvres allait s'infiltrer dans le sol, et que prise dans sa tresse de cheveux gris qui lentement se déroulait, il y avait des graines d'été, symbole d'honnêteté, qui déjà se mettaient à ramper vers la lumière, lui mettant... Pardon, j'ai oublié le... Je suis désolée. Non, j'ai pas oublié. Voilà, je suis désolée, j'ai sauté le paragraphe. Il y avait des graines d'été, reines des prés, mélisses, symbole d'honnêteté, qui déjà se mettaient à ramper vers la lumière, lui montrant ainsi comment, le moment venu, sortir de terre et remonter à la surface afin de les saluer d'une bouche jeune et encore pleine de crasse, de crachat et de poésie. Donc la résurrection.
Passer aux hommes.
Voilà. Hein.
Alors, le 4 extraits aussi. Le premier que je vais prendre, c'est un long poème qui s'appelle en anglais White Egrets, c'est-à-dire les aigrettes blanches, le fameux oiseau. Tiens, l'autre jour, j'en ai vu dans une prairie en baie de Somme. Oui. Je n'en revenais pas. Il faut dire qu'il y a une réserve d'oiseaux pas très loin.
Ne les vois, il ne faut pas trop les voir.
Il ne faut pas trop les voir. Oui.
Voilà.
Il y en avait beaucoup.
Il ne faut pas trop les voir. Ne les regarde pas.
C'est vrai, c'est mauvais signe. Et donc, ce poète est le plus capé de tous les poètes. Il s'appelle Derek Walcott et il est originaire de l'île de Tobago, dans les West Indies, dans les Antilles anglaises. Et il a eu un parcours absolument fulgurant, puisque en 1992, il a obtenu le prix Nobel. Et donc, ce Derek Walcott, qui a enseigné la poésie à Boston et à Harvard, est un poète qui parle dans ce poème que je vais lire, dans les deux dernières strophes de ce poème que je vais lire, qui parle d'un autre prix Nobel, son ami Joseph Brodsky. Joseph Brodsky, le poète russe, qui s'est exilé aux États-Unis et qui a eu le prix Nobel également, à tel point qu'on disait que il y avait à Boston une ferme aux poètes, une ferme, un élevage de poètes, puisque Czesław, un élevage de prix Nobel, puisque en 1980, l'un de leurs amis également, Czesław Miłosz, le lituanien, le polonais plus exactement, a obtenu également le prix Nobel. Je me souviens avoir eu le privilège, je dis ça parce que c'est la vérité, ils sont venus en 1993 à Paris, à l'école polytechnique, devant un amphithéâtre complet, et on m'avait donné la lourde mission de les présenter, une double affiche, Czesław Miłosz et Joseph Brodsky. Et donc, cette histoire des aigrettes blanches est une rencontre qui est un mauvais signe pour l'un des deux, puisque Joseph Brodsky devait mourir quelque temps après. Je ne les avais pas vus depuis le milieu de la semaine de Noël, les aigrettes. Personne ne m'avait dit pourquoi elles étaient parties, mais les voici de retour avec la pluie, bec orange, pattes roses et tête acérée sur la pelouse à leur place habituelle. Dans la pluie claire infinie de la vallée de Santa Cruz, qui lorsqu'elle tombe s'abat régulièrement sur les cèdres, jusqu'à ce que la plaine s'embrume. Les aigrettes ont la couleur des cascades et des nuages. Le peu d'amis qu'il me reste sont proches de la mort, mais les aigrettes traversent majestueusement la pluie comme si rien de mortel ne les touchait, ou bien s'élèvent anges abrupts, voguant avant de se poser encore. Parfois, les collines elles-mêmes disparaissent comme les amis, lentement, mais je me sens plus heureux à présent qu'elles sont revenues, comme la mémoire, la prière. Avec la lenteur d'une feuille qui tombe dans la forêt, jaune pâle tourbillonnant sur fond vert, ainsi sera ma fin. Bientôt viendra la saison sèche, les collines roussiront, les aigrettes ploieront leurs coups ondulants, se baissant pour viser verts et larges après la pluie, quelquefois raides comme des quilles immobiles parmi les floches de coton arrachées à la montagne. Puis lorsqu'elles bougeront leurs pattes aux doigts écartés, leurs coups élancés gauchement, elles feront se mouvoir ma main. Nous avons un instinct en commun, la même voracité. Le bec de mon stylo picore ces insectes grouillant les noms avant de les engloutir. Ma plume lit à mesure qu'elle écrit, secouant rageusement ce que son bec rejette. La sélection, voilà ce qu'enseignent les aigrettes sur le gazon grand ouvert, hochant la tête cependant qu'elles lisent dans un silence avisé, une langue d'au-delà la parole. Nous étions, Joseph et moi, Joseph Brodsky, chez des amis, à Sainte-Croix, en train de parler près de la piscine, loin lors d'une visite dont j'avais espéré qu'elle lui ferait plaisir.
Il s'arrêta net pour signaler souple coupé une vision ni immobile ni hostile, mais figée dans le grand arbre fruitier dont la vue l'ébranla comme sortie d'un tableau de Bosch, dit-il. L'énorme oiseau était apparu soudainement, celui-là même peut-être qui l'emporta, aigrette ou héron sépulcral. Tel eux mes compagnons tiers, le mot imprononçable de nous quittait plus. Et ce qui le frappa, lui qui aimait la neige, la cause de son émoi était que l'oiseau fut d'un blanc si spectral. À présent, lorsque sur le gazon à midi ou le soir, les aigrettes prennent leur essor en silence, ou virent comme une régate sur l'herbe vert marin, ce sont, comme Joseph, des âmes de séraphin. C'est un poète
magnifique.
En 8 parties, j'en ai lu que les 3 dernières. Alors, tout le contraire, car le spectre, si je puis dire, des styles et des humeurs est considérable, comme dans toutes les poésies, mais dans celle-ci en particulier. Le poète, le second poète dont je parle, est un cas particulier. Il s'appelle Tony Harrison. J'ai traduit l'un de ses poèmes les plus, les plus contestés, les plus irrévérencieux, qui porte la lettre V, qu'en anglais on appelle vie, mais qui fait la victoire. Vous savez, vous vous souvenez de Winston Churchill avec son célèbre cigare et son V for Victory. Et donc, c'est ce que font également les fans de foot en Angleterre, Liverpool, Manchester et ainsi de suite. Donc, Tony Harrison, qui est un poète issu de la classe ouvrière, du côté de Leeds, dans les Midlands, le nord de l'Angleterre, et donc est devenu professeur de grec en université, ce qui est un trajet absolument admirable en Angleterre, mais partout, mais aussi, surtout en Angleterre. Et il ne s'est pas contenté de cela, il est devenu un des auteurs de théâtre très importants en Angleterre. Et gardant un contact avec la Grèce, allant organiser des festivals au théâtre de Delphes, en Grèce. Et il a cette particularité d'être anti-monarchique. Je ne sais pas ce qu'il pense du roi Charles III. En tout cas, sous la reine Élisabeth, violemment anti-monarchique, républicain absolu, républicain radical. Et alors, il s'ingénie dans ce poème « Vie » à parodier, mais de façon très sérieuse, un des poèmes phares de la poésie anglaise, écrit en 1751 et que l'on considère comme le premier poème romantique, celui de Thomas Gray, qui a pour titre une élégie, écrite in a country churchyard. Une élégie écrite, composée dans un cimetière de campagne. Et tous les Anglais le savent par cœur, ou du moins plusieurs strophes. Et c'est un poème qui raconte l'histoire d'un individu qui pense à son ami qui est sous la terre, et comment passe le temps, c'est très classique, c'est véritablement au lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des clochéries qu'elle devait revoir, je regarde, je viens m'asseoir, sucrée que fière où tu l'as vu s'asseoir. Lamartine, tous ces gens-là se sont inspirés profondément donc du romantisme anglais. Et alors là, on est dans un tout autre contexte populaire et il fait passer dans la poésie anglaise des mots qu'on appelle les 4-letter words, des mots de 4 lettres, des mots injurieux, fuck, cunt, ainsi de suite. Si vous cherchez ma tombe, dans les 100 ans qui viennent, vous aurez du mérite à tomber sur ma dalle. Moi, barde entre boucher, boulanger, cafetier, ma poésie jouxtant la bière, le pain, la viande. Byron, trois tons plus loin, pas de danger qu'avec lui ça manque de compagnie. Wordsworth, la tombe d'en face, ça fera trois confrères, moi compris, qui glisseront à la fosse commune. Le jour où le puits de mine que jadis on creusera entraînera par glissement pêle-mêle nos morts d'élite. Délités au milieu de décombres, des gradas, cendres tassées, pierres cassées, bois réduites en poussière. Wordsworth fut facteur d'or, Byron, tanneur de cuir, à l'âge de la vapeur, pour bagages à main. Ils trouvèrent leur repos finalement dans ce coin, avant que les galeries inférieures ne s'effondrent. Tourner les pages de ce petit livre, c'est une chose...
Il faudrait un tourne-page comme en musique. Il faudrait une personne qui soit à côté et qui tourne les pages. Je reprends.
Au bord de Beeston Hill, le cimetière est l'endroit où s'il reste de la place sous rosiers et jonquilles, dont papa a cru bon décorer le caveau de famille. Peut-être prendrai-je un jour, à mon tour, mon repos. Si les cendres pouvaient voir d'ici, j'aurais la vue sur les lieux où j'appris le grec et le latin, et à gauche sur le stade où Leeds United, semaine après semaine, déçoit ses supporters qui, revenant chez eux et se sentant défaits, prennent un raccourci par le cimetière où, redisant la gloire de l'équipe givrée, ils bombent leurs insultes sur la pierre des tombes. Comme le cimetière surplombe un puits de mine fermé, le sol ayant cédé, les obélisques penchent l'un à gauche sur lequel on lit « fuck », l'autre « shit » sur la droite par la bombe d'un fan bourré. Voilà, j'arrête là. Simplement, c'est un dialogue qui va s'installer. Il va chercher ce type complètement bourré de bière et qui se sert de sa bombe pour taguer les tombes dans ce cimetière en décomposition. Et s'instaure un dialogue entre un punk et lui. Ce poème est absolument incroyable, quoi. Là, je ne connais rien de tel dans la poésie française. Véritablement, ce dialogue entre un prof de grec issu de la classe ouvrière et un punk qui, lui, s'en fout complètement du savoir et qui tague, qui s'intéresse qu'au foot et qui tague c'est des shit et fuck sur les tombes.
Tu dis quoi, toi ?
Alors après, je lis le dernier peut-être, c'est-à-dire David Harson. Alors ça, c'est page... Ben c'est là. Je veux dire David Harson. Alors lui, c'est un personnage absolument énigmatique. D'ailleurs, c'est ce que tu laisses entendre dans la biographie dont tu parles.
Ah, les petites notices.
Les petites notices.
Oui, chaque auteur est précédé d'une petite notice très condensée, mais qui donne quelques pistes, parce que je trouve que c'est quand même difficile de se repérer si on n'a pas quelques indications.
Elles sont vraiment très bien faites.
Merci.
Et donc, non, mais je le trouve, parce que c'est toi qui les as rédigées en même temps que traduire. Et donc... ce poème, je le trouve très étrange. Il est à la limite du fantastique. C'est une autre dimension dans la poésie anglaise. Ce sera le dernier poème que je lirai. On a l'impression, je raconte l'histoire de façon à ce que vous saisissiez un peu le contexte, que c'est un homme qui est-il divorcé, j'en sais rien. Mais il revient la nuit et il regarde de loin la maison où il a vécu. Et il voit sa femme, en quelque sorte, faire des gestes quotidiens, mettre la table, la nappe, les enfants, ainsi de suite. Et il se cache dans l'ombre, et il ne se montre pas. C'est une explication, si je puis dire, de ce poème.
Il ne veut pas mettre la main à la pâte.
Non, là, vous êtes, là, vous continuez dans le mode féministe. Non, non, mais je peux vous dire que...
Lis-le.
Je peux vous dire...
Lis-le.
Oui, d'accord, c'est bien. Mais je suis mon propos. Hein? Vue de la maison depuis le fond du jardin. Dans l'obscurité. Sous la pluie. Toi, à la limite précise où le sang de ce qui t'appartient s'écoule à travers la clôture jusqu'à une terra incognita, où la traque sanglante de la nuit démarre dans les taillis. Impression que quelque chose se profile avec un sourire, prêt à l'assaut et l'esquive rapide. Une femme est en train de mettre le couvert. La nappe gonfle en se posant. Un verre à vin réfléchit la lumière. Corbeille pour le pain, cuillères et bols pour le bouillon, comme de juste. Toi, sachant justement la fragilité de ton emprise sur tout cela, fenêtre éclairée, faible odeur d'iode dans le va-et-vient de la pluie. Voici qu'elle regarde dehors, mais tu es invisible. Tu l'as voulu. Quoi que ce soit peut-être une faiblesse de se tenir à l'écart en spectateur, de vouloir suspendre son souffle une seconde pour tout figer. La maison, la femme, la fenêtre, la lumière de la lampe, qui ne pèse rien en comparaison de la terre nue. Vois-tu bien la scène ? Peux-tu dire pourquoi tu te trouves justement là, à l'endroit précis où l'allée du jardin s'enfonce dans le noir, toujours à l'observer, alors qu'elle se détourne brusquement, comme effrayée, tandis que la verse redouble et que son ombre sur le mur, tremblant, est livrée à la nuit ? Oui, bien sûr, c'est le moment précis du mythe où l'on regarde en arrière et que tout bascule vers l'enfer. C'est Orphée et Eurydice dans l'autre sens. Ah, c'est pas mal d'avoir lu ces deux-là, parce que effectivement, ça réécriture du mythe, réécrire le mythe.
Tu souhaites qu'on continue la lecture ou est-ce des questions peut-être
entre... Il y a peut-être déjà des questions.
Si vous avez
des
questions.
Bah oui, parce que là vous êtes passif et
non, mais...
depuis un bon moment. Et donc... Non, ça va, c'est pas trop ennuyeux.
Une question là-bas.
Bon,
une question là-bas.
Deux. Il est constant, il est partout.
Oui, bien sûr. Mais... J'essaie de réfléchir très vite et je me dis, je compare toujours la poésie française que je pratique. À la poésie, et que Bernard pratique, à la poésie anglaise, britannique, surtout britannique. Ils ont une approche du grec totalement différente et qui n'a pas été en quelque sorte confisquée par l'âge classique français. Comment faire après Racine ? Racine a véritablement, c'était un helléniste et un latiniste de très grande capacité, formé à Port-Royal, et on a l'impression qu'il a figé la mythologie, il l'a confisquée, et qu'elle a été littéralement confisquée par Versailles. Chaque fois que je vais à Versailles, et que je vois Neptune, Poséidon sortir des bassins, j'ai envie de me sauver. Et donc... voilà, je fais ça de façon caricaturale.
Mais vous avez raison, parce que de toute façon, Neptune, il a un trident, alors si vous poursuivez...
Voilà, exactement. Je ne sais pas comment dire, il y a une entrée très commune, populaire, banale, des Anglais, qui sont de très très grands hellénistes. À Oxford, il y a sans doute les meilleurs hellénistes du monde. Et qui entrent dans la mythologie comme dans une famille. Ils ont raison. Les dieux, c'est vraiment, chez les Grecs, c'est la famille.
C'est leur éducation. Il y avait une question.
Oui, est-ce que vous avez inclus dans votre anthologie une jeune comme Kate Tempest ?
Non, pas du tout, parce que ça s'arrête à peu près à 2015.
Et donc, je n'ai pris que des poètes des générations précédentes, confirmés. Et oui, mais non, mais si vous voulez, on voit la filiation. Là, Kay Tempest, c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, il y a l'autre, comment il s'appelle,
Holly McNish.
Mais si vous voulez...
Qui est venu à Paris, il n'y a pas longtemps.
Ce que j'ai lu montre comment ça a pu rendre possible des poésies comme celle de Kay Tempest, Holly McNish, qui sont là dans le contemporain immédiat. Hein.
L'articulation, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Entre le 20e et le 21e, il y a une tradition, il y a une continuité.
Il y aura une autre anthologie à faire. Mais je pense qu'il faut quand même toujours un petit peu de recul.
Un peu de prudence. Hein,
pour, moi, je n'ai pris que des poètes vraiment confirmés. Après, j'ai dû faire un choix douloureux, parce que, bon, on est obligé de... J'ai privilégié la variété, les différentes tendances, ce qui me semblait représentatif de telle ou telle tendance. Mais bon, tout reste à faire. Hein. Il y a eu un tournant, là, avec un féminisme beaucoup plus débridé que ce que je viens de lire encore. Et puis, au niveau des minorités aussi, tout est en changement. Donc, il y a une nouvelle anthologie à faire, hein, c'est sûr.
Mais bon. Vous sacrifiez un petit peu à la mode, c'est ça ?
Pardon ?
Sacrifier un peu à la mode avec des idées.
Non, je ne sacrifie pas.
Ah, mais je dis pas ça méchamment.
Non, pas du tout. Non. Justement, comme je n'étais pas dans le contemporain immédiat, là actuellement, ce qui est à la mode, oui, justement, ce sont les très jeunes poètes. On est dans une période en Angleterre où comment dire
thèmes, en fait, des thèmes féminins.
Oui, mais alors à outrance.
Le festival de théâtre du Québec, et
oui.
Presque toutes les pièces étaient rompues là-dessus.
Voilà, c'est ça. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est devenu une mode en France aussi. C'est pour ça que je disais qu'il faudra un petit peu de recul pour voir ce qu'il va en rester d'intéressant. Il restera des choses intéressantes. Là, les poètes femmes que je vous ai présentées, elles font partie de la tradition... Déjà, maintenant, elles font partie de la tradition poétique. Hein. Elles ne sont pas... Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Oui.
Alors, on dit... Tu es passé, je trouve.
Pardon. Oui. D'abord. Ah oui, pardon.
Merci d'abord. Je suis égyptienne, mais et donc le contexte en anglais est très... par les poètes égyptiens.
Absolument.
Et aussi par l'université du Caire et l'université d'Ain Shams et sans doute l'Ombre Zou, qui était créé par Napoléon chez nous. Je veux bien vous poser une question. Lesquels des poètes parmi vos choix a été
parmi les poètes que je viens de lire,
oui.
Quels sont ceux qui ont déjà été traduits chez Gallimard?
Aucun.
Il me semble, hein, je réponds avant de réfléchir. Non, aucun.
Leur poésie
voilà.
A été traduite.
Ah si, Derek Walcott.
Derek Walcott.
Chez Gallimard, c'est paru
Je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas qui est le traducteur d'ailleurs. Je me demande si ce n'était pas Claire Malroux.
Claire Malroux
qui a traduit le poème qui est le plus connu de Derek Walcott et qui s'appelle Homeros, O-M-E-R-O-S, et qui est l'histoire de l'Odyssée transposée aux Antilles.
Parce que, par exemple, nous avons beaucoup de poètes anciens qui ont eu, de l'Amérique latine,
oui.
Qui ont eu le prix Nobel,
oui.
Et en même temps,
bien sûr.
Ont été traduits.
Bien sûr.
La littérature britannique n'est pas très traduite, hein, chez Gallimard.
Vous savez, nous avons traduit avec Valérie Rousseau,
oui.
Et moi-même Ted Hughes.
Oui.
Alors Ted Hughes,
c'est la place.
Très peu de personnes qui connaissent Ted Hughes aujourd'hui en France. Oui. nous l'avons traduit dans la collection blanche. Ted Hughes en France est connu parce que c'est le mari, entre parenthèses, insupportable, point d'interrogation, de Sylvia Plath. Alors Sylvia Plath, on connaît. Mais en Angleterre, le poète qui a été poète lauréat, qui a été le poète le plus connu dans ces dernières années, à la fin du XXe siècle, c'était Ted Hughes. Nous l'avons traduit, presque l'œuvre complète, enfin du moins une grande partie, Valérie Rousseau et moi. Il s'est vendu en 10 ans 700 livres.
Non, c'est très...
Il y a plus qu'un fossé c'est entre curieux. La France et l'Angleterre. Je ne connais pas d'autre fossé mais aussi large.
C'est curieux.
C'est absolument étrange. Quoi. C'est incroyable.
Ce fossé...
Comme s'il y avait incompatibilité. Pardon.
Ce fossé dont tu parles avec les Anglais, il est le même pour les Allemands et pour les Italiens. Je pense que les Français n'aiment pas trop la poésie étrangère. D'une façon
moindre. Les Français traduisent pas mal.
Oui, ils traduisent pas mal. Mais
Enzensberger, par exemple, en allemand, a un livre, sinon deux. Il a même un Poésie Gallimard. Il a un Poésie Gallimard. Ensuite, Montale et d'autres Italiens, Ungaretti et d'autres Italiens ont des volumes chez Gallimard.
Oui.
En Angleterre, ben je cherche. Il y a les sonnets de Shakespeare qui sont un contre-exemple parce que les sonnets, Shakespeare écrivait en vers blanc, mais les sonnets sont en vers rimé. C'est curieux.
Keats a été traduit. Il y a des traductions.
Shelley a été traduit en partie aussi.
On demandait chez Gallimard, mais
Wordsworth et Coleridge. J'ai traduit Coleridge. La balade du vieux marin et autres poèmes. Et Wordsworth a été traduit par René Dailly, mais pas entièrement.
Il y a du Blake aussi. Tu as traduit.
J'ai traduit William Blake.
Coleridge. John Newton.
C'est toujours dans la collection Poésie Gallimard.
Les traductions de poètes anglais figurent à la fin de l'anthologie. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très connu quand même.
Non, je peux vous poser une question parce que vous avez dit que la poésie avait encore eu pendant longtemps une influence sociale. Vous voulez savoir quel est le statut en termes de droit d'auteur, parce que je crois que c'est une question difficile.
Alors ça, je te
tu es passé, Martine est passé, je trouve, très pudiquement sur cet aspect-là, mais ça fait partie du retard que cette anthologie a eu la publication.
J'ai esquissé le problème, quelqu'un veut des explications,
je vous donne un synthèse.
Bien volontiers.
Les poètes anglais est publié chez des éditeurs et il est normal quand on les traduit qu'on écrive à l'éditeur qui donne les droits ou ne les donne pas. Mais il les donne, il les fait payer, on est d'accord? Mais dans la plupart des cas, les poètes ont en outre un éditeur, un agent littéraire. Et donc il y a un double marché, il y a le marché de l'éditeur et le marché de l'agent littéraire. C'est impensable en France.
En effet,
nous n'avons pas d'agent littéraire, ni Bernard, ni moi. Nous n'avons pas, peut-être que nous devrions en avoir un.
Plus les droits de traduction.
Plus les droits de traduction. Ils ne font pas s'impayer. C'est une anthologie bilingue.
Oui.
On a donc payé trois fois.
Oui.
Une fois pour le...
Si je peux me permettre,
oui, bien sûr.
J'ai été obligée de retirer des poèmes, voire des auteurs entiers, parce que c'était inabordable.
Un exemple, si tu veux bien. Il y a un poète, on ne dira pas son nom.
Non, ne disons pas
le nom. On ne dira pas le nom.
D'abord, j'ai un
nom. Oui, mais il n'empêche que c'est la vérité. Un poème, il y avait un poème qu'on aurait voulu imprimer de lui, et en fait, l'agent littéraire a dit 1000 euros. €1,000 un poème.
Ouais. Vous pouvez peut-être partager les agents littéraires.
Oui. Comment?
Ça commence à venir.
Ben, en France, c'est toujours tout vient du monde anglo-saxon et on s'adapte.
Pas pour le mieux.
Pas pour le mieux. Parfois.
C'est pas pour le mieux.
Alors là, ça devient inextricable.
Et franchement, enfin, on a cru à un moment, j'ai cru que le projet ne pourrait pas aboutir à cause de cela, hein, parce que c'était
terrible. Il y a l'exemple d'une anthologie de poésie américaine qui manque dans la collection Poésie Gallimard.
C'est à la Pléiade, tu veux dire. À la Pléiade.
Et à la Pléiade, donc elle n'est ni en Poésie Gallimard, ni dans la Pléiade, uniquement à cause des copyrights.
Ça va être extrêmement matérialiste, parce que ça ne contribue pas à l'éclat de la poésie. Le fait qu'elle a de la valeur.
Bah, bien sûr. Mais
alors,
si
ça, c'est un débat.
Un
débat.
Mais vous avez raison.
Qu'est-ce qui fait qu'un tableau. La peinture, je vois là à l'instant Claude Monet, un tableau de Claude Monet, 72 millions d'euros. Qu'est-ce qui fait qu'un poème de Shakespeare, disons un poème coûte au maximum 1000 euros hein.
Même après 50 ans.
Comment ?
Même après 50 ans.
Même après 50 ans.
Et 70 en France.
Je ne crois pas qu'ils aient en Angleterre notre statut. Des textes qui tombent dans le domaine commun au bout de 70 ans.
Comme un poème, il est duplicable
à l'infini.
Bah,
bien sûr.
Bien sûr.
C'est un exploit que Martine a fait réaliser. Et moi, je l'ai soutenu par ma ténacité. Et les éditeurs chez Gallimard ont été admirables.
Oui.
Ils ont été admirables parce qu'ils ne nous ont pas laissé tomber. On a cru à plusieurs moments que ça allait se casser la figure.
Je n'osais même pas prévenir les poètes anglais parce que je me disais non, ça ne paraîtra pas.
Celui de l'Amérique dans la Pléiade, autant que je sache, a été fait par des universitaires. Mais on n'arrive pas à le publier parce que des gens comme Allen Ginsberg, les droits qui sont demandés sont exorbitants.
En revanche, nous avons publié l'anthologie de poésie irlandaise sans aucun problème en un mois, parce qu'il y avait le marché de la poésie avec que Jacques dirigeait. On avait invité l'Irlande.
On avait invité des gens comme Chevesiné.
On voulait que ça sorte pour le marché. On a été aidés par l'ambassade irlandaise.
Le collège irlandais.
On a été tellement aidés par le collège irlandais. C'est paru, ça n'a rien coûté, ça a paru très vite.
Au castor astral. Je le précise.
C'était plus facile au castor astral, c'était plus souple. Gallimard, c'est plus long, disons. Les démarches sont plus longues. Mais bon, on avait envie que cet ouvrage reste.
Oui, mais les Irlandais, pour les Irlandais, la poésie est le grand art.
Ah bah, c'est... Oui.
Les Anglais, ils font du fric avec tout.
C'est une question.
Juste une remarque par rapport à votre analogie. Finalement, c'est comme si, par rapport à l'œuvre d'art picturale, c'est comme si on se disait, on va pouvoir vendre aux enchères le poème, pas ses copies. Le poème écrit à la main par le poète.
Oui. Ça a une valeur d'ailleurs.
D'ailleurs, le manuscrit, généralement, dans certains cas, atteint des grands prix. Mais jamais, jamais autant que la peinture.
Il y a eu le marché des manuscrits.
Jamais autant que la peinture.
C'est pas aussi faramineux.
Bien sûr, effectivement.
Est-ce que je lis.
Un dernier.
Ouais, c'est difficile. Qu'est-ce que je veux
Qu'est-ce que tu peux lire?
Je vais pas lire des femmes, alors je peux lire. Il y en a encore plein. Je peux lire soit Jeffrey Hill.
Il y a un roman.
C'est difficile. Oh, roman.
Non. Lis Jeffrey Hill si tu as envie. C'est un des très grands poètes du XXe siècle.
Ou alors je lis Robin Robertson, mais c'est un peu long.
C'est long. Jeffrey Hill. Les deux strophes là, tu m'avais parlé.
Alors, il fait partie des plus grands.
Prends le micro.
Bah, oui, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Si.
Oui, si ça marche.
Ta voix pour suffisamment, je pense.
Bon. Ça va, je peux m'en passer parce que je crois que ça ne marche pas.
Si ça marche, on entend très bien.
Ok. Ouais. Donc, il est décédé, il se définissait lui-même comme un des derniers grands modernistes dans à la suite de Ezra Pound, par exemple. Et ce qu'il écrit là, c'est en quelque sorte son testament poétique avec sa conception de la poésie. Sait-on vraiment ce que demande la terre ? Du terre à terre, du terrestre ou de l'éthéré ? Et si le Spiritus Mundi s'intéresse à la mauvaise foi, à l'escroquerie à la source, à l'usure éhontée de l'espèce,
En fin de compte, on se retrouve aussi brisé que serment en miettes, pétition ensanglantée, prière calcinée montant vers le divin sur des spirales d'air brûlant. Pas une once de décence, c'est entendu. J'affirme que la réalité est à la fois plus brutale et plus belle, qu'elle suit son cours sans faire de bruit. Pourtant, je pense que la poésie rejoint ce que l'on a dit des mémoires de guerre d'Alan Brooke. Un travail visant à prendre ou reprendre possession de soi-même. Un moyen de survie et en ce sens, un mode de vie morale. On en revient au départ, au débat sur les deux conceptions
c'est un poète
de la
poésie. Dont l'évolution est. Jeff Hill, c'est un poète dont l'évolution est assez singulière. Il a, est un grand lecteur de Charles Péguy.
Oui.
Il a écrit un très beau poème sur Péguy. Oui. Et son développement la conduit de plus en plus vers l'éthique, plus qu'encore que la morale, l'éthique. Et donc, en tant que tel, il rejoint les poètes de la fin du 19e siècle anglais, un peu, il n'était pas poète, mais John Ruskin, par exemple, les réflexions de Ruskin sur l'art, les ouvriers, les classes sociales. C'est un poète très fort, très sobre, très, j'ai envie de dire, presque calviniste. Je dis ça sans aucune critique.
Hermétique parfois.
Et alors, à la fin de sa vie, il est devenu presque aussi hermétique que Mallarmé. C'est une singularité dans la poésie anglaise. Encore que l'école de Cambridge, dont on a parlé dans les années 70-80, était aussi très abstraite.
Des questions ?
Moi, en ce qui concerne la traduction, donc j'ai repéré, là, j'ai eu un petit œil sur la droite, et j'ai repéré aussi que le texte changeait par rapport à ce que tu disais. Donc, une traduction n'est jamais terminée.
C'est ce qui est horrible dans une traduction. C'est qu'on n'a jamais terminé, on n'est jamais content, on pourrait reprendre. Et il faut savoir s'arrêter à un moment.
C'est ce que les peintres disaient également. Les peintres, on raconte l'histoire d'un autre peintre anglais célèbre, William Turner, et qui exposait à la Royal Society et qui. À l'insu de tous, quand les gens avaient le dos tourné, rajouter une touche à sa toile. Bonnard faisait la même chose.
Oui, parce que j'ai trouvé que c'était trop long, puis là je m'en vais.
C'était quoi exactement ?
Comment ?
C'était quoi ?
Ça n'est jamais fini. On n'a jamais fini vraiment une toile, jamais fini une traduction. Ou un poème, bien évidemment. Un poème, c'est difficile quand il est vraiment bien boulonné, bien ajusté. Difficile de toucher un mot. Parce que là, tous les défis.
C'est un peu vrai.
Est-ce que grâce aux agents littéraires, la poésie se vend mieux en Angleterre ?
Jusqu'à il y a quelques années, mais j'ai l'impression que là, on n'est pas dans une, d'après nos amis anglais, on n'est pas dans une très bonne période. Il y avait une critique de la poésie qui était d'excellente qualité, et je n'en ai pas parlé, mais pour faire le choix, je me suis appuyée sur beaucoup d'ouvrages critiques, des articles de journaux, du Guardian en particulier, extrêmement intéressants. Et malheureusement, ça aussi, ça faiblit en ce moment. La poésie aussi, je trouve, faiblit en ce moment. Il y a des choses de très jeunes, très iconoclastes qui apparaissent. Peut-être en va-t-il en sortir quelque chose d'intéressant. Mais je trouve qu'on est dans une période un petit peu délétère.
Un peu n'importe quoi.
Oui, oui.
C'est vrai. Alors, si on juge, alors évidemment, on pourra dire qu'on juge ça depuis notre âge.
depuis le vieil âge, chose comme ça, il y a vraiment un peu de n'importe quoi qui sort. Et d'une certaine façon, le slam n'a pas servi la poésie.
Oui, c'est ça, c'est
sorte.
Vraiment...
C'est un amollissement de ce qui fait la tension poétique.
Et un retour de l'idéologie quand même, puisque... c'est la bien-pensance qui vient des États-Unis et qui, je trouve, quand même contamine les choses. Alors bon, tout ça va peut-être se décanter. Alors après, tous les poètes sérieux continuent héroïquement leur travail dans leur coin. Mais au niveau du rayonnement de la poésie, c'est une période difficile. En Angleterre aussi.
De moins en moins de réception.
Oui. Et pour la critique.
La chanson, oui.
En Angleterre, la chanson, de toute façon, a toujours été très importante, mais elle laissait la place à la poésie. Après, la poésie a beaucoup de place dans les universités en Angleterre. Les poètes travaillent souvent, presque toujours, dans les universités.
Ils ont des occasions de lecture qui nous semblent plus nombreuses que les poètes français.
C'est plus organisé.
Davantage de festivals, de lecture. Pays arabes, je me souviens d'avoir fait une lecture en Jordanie à Amman avec Adonis. Et Adonis, il y avait dans l'amphithéâtre, il y avait 700-800 personnes. Lorsque Seamus Heaney est venu au collège irlandais, ici en 2013, dans la cour du collège irlandais, 600 personnes. Quel est le poète français aujourd'hui qui rassemble 600 personnes?
C'était extraordinaire. Hein,
Les arts capelles aussi.
Comment?
Les arts capelles. Un grand poète d'origine syrienne.
Adonis, oui. Et alors, Adonis a une position, je ne sais pas comment il l'a définie aujourd'hui, mais qui est très anti-islam. C'est-à-dire, il dit, à juste titre, que avant l'islam, il y a eu ce qu'on appelle les poètes pré-islamiques, les poètes d'amour, poètes essentiellement, et qui, voilà, érotiques, et il fait la jonction avec ces poètes-là. Fait la jonction avec ces poètes-là. Par-delà la religion.
Adonis aussi.
Ah oui.
Comment? Adonis aussi.
Je parle d'Adonis.
Les arts pareil.
Je parle d'Adonis.
Les arts, l'amour, la femme.
Je pourrais lire le dernier d'un Indien.
Oui. Ah oui.
Je parlais des minorités, mais j'ai rien lu de un poème court.
On a eu du mal, t'as eu du mal pour le traduire.
Non, celui-là, ça allait. Il y en a. Alors, comme il emploie souvent un mélange de langue du Punjab et d'anglais, c'était absolument intraduisible. Donc, j'ai choisi un poème traduisible qui s'appelle Dans une ville blanche. C'est page 393. Je ne sais pas si je prends le micro ou pas. Dans une ville blanche. Elle ne ressemblait en rien aux mères des autres enfants. On ne pouvait s'empêcher de se retourner sur le camise rose, le pantalon bouffant, la traînée de cheveux huilés couleur moutarde, les sandales de brocart rose et l'odeur de curry. Voici pourquoi je jetais à la poubelle les invitations aux réunions de parents. Lui ordonner de mettre en sourdine ses chants sacrés, vérifier que les voilages rasaient bien le bord des fenêtres, vaporisait l'entrée de lavande lorsque quelqu'un frappait, prélever du casier tout notre lait aux capsules d'or, de peur que de mauvais plaisantins le repèrent, sans jamais avouer les noms bizarres de mes parents, ni le code de notre adresse si je me faisais tabasser dans les toilettes par des skinheads, résolu à tirer la chasse d'eau sur l'ennemi de l'intérieur.
Je me serais sentie plus à l'aise si elle avait consenti à cacher son corps illettré lorsqu'elle croisait d'autres femmes au marché, se répandait en palabres. Ou qu'à la bibliothèque, avec mes potes, à l'heure des devoirs, elle venait gratter à la fenêtre, gratter encore, jusqu'à ce que plus tard, seule avec elle, son visage rouge face au mien, elle se moque de mon punjabi laborieux et me traite en riant de gora, c'est-à-dire de blanc. Disant que mon salut viendrait d'une fiancée indienne, son double, sa sati. Lorsque je lui rends visite aujourd'hui et qu'elle se redresse, s'avance en boitillant pour m'embrasser le front comme elle faisait jadis, je voudrais plonger vers l'avant. Voilà. Bien, je sais pas si...
On arrive à peu près à la fin, on a encore un petit peu de temps. Il y a quelques exemplaires peut-être.
Oui, j'ai
on a des exemplaires.
Quelques livres, si ça vous intéresse.
Alors, précisément, quelle est la réception de cette anthologie?